sur Radio B, Alain Goudard. Bonjour et bienvenue à tous dans Résonance. Résonance, l'émission radiophonique de Résonance Contemporaine, pôle ressources départementales et régionales, culture, handicap, musique contemporaine. Résonance, une nouvelle émission pour vous et avec vous, pour tendre l'oreille vers ce qui ne s'entend pas, regarder où il ne faut pas ou ce qui ne se voit pas. Invention à deux voix vous propose des séries d'entretiens avec des personnalités du monde artistique, littéraire, philosophique, sociologique, politique. Deuxième entretien d'intervention à deux voix, d'invention à deux voix avec le compositeur Lucien Guérinel. Né le 16 août 1930 à Grasse, vous passez votre enfance, Lucien Guérinel, en Tunisie, entre 1932 et 1940, où vous apprenez la musique par des approches privées et personnelles, puis vous effectuez des études universitaires à Marseille de 1950 à 54, tout en poursuivant vos approches musicales, piano et harmonie. Vous vous fixez à Paris en 1954 et là, vous étudiez l'harmonie avec le compositeur André Jouve et vous bénéficiez des conseils également du compositeur Louis Saguère et vous liez bien sûr, on va dire, amitié avec ces deux personnalités du monde de la musique. De là naît, au fur et à mesure de votre chemin, un catalogue d'œuvres. Plus de 130 œuvres, musique instrumentale, musique de chambre, musique vocale et chorale, 6 quatuors à cordes, de la musique de scène, et je pense notamment tout particulièrement au cycle Thébain de Sophocle, créé à Marseille, et également joué à Épidaure en 1996-1997, et puis bien sûr Écube, qui est aussi une œuvre chère, une œuvre d'Euripide, qui a été créée au Tourski, également à Marseille, en 2005. Vous cultivez donc l'écriture musicale et l'écriture poétique en écho, en rebond de l'une de l'autre, se nourrissant réciproquement. Un tel parcours, une telle production d'œuvres, tout cela nous a donné l'envie de faire découvrir plus en profondeur à nos auditeurs comment un homme a besoin du récit à travers la musique pour vivre. C'est ce que nous vous proposons d'approcher avec nous au cours du deuxième entretien d'Invention à deux voix avec Lucien Guérinel. Résonance sur Radio B, invention à deux voix avec Lucien Guérinel. Bonjour Lucien Guérinel.
Bonjour Alain.
Merci aussi d'être avec nous aujourd'hui et c'est un grand plaisir de vous accueillir à nouveau pour ce deuxième entretien d'invention à deux voix. Alors je voulais commencer pour introduire ce deuxième entretien par des propos du poète Rainer Maria Rilke. Et il écrivait notamment à propos des œuvres d'art. Les œuvres d'art sont toujours le résultat d'un danger couru, d'une expérience conduite jusqu'au bout, jusqu'où une personne ne peut aller plus loin. Fin de citation. Et je me dis que, au bout de votre parcours, de vos explorations aussi dans la musique des mots, dans la matière sonore, c'est peut-être un point de vue que peut-être vous pourriez partager, celui de Rainer Maria Rilke.
Je retiens tout d'abord, presque exclusivement, le danger couru.
C'est ça, me semble-t-il.
Oui, c'est en tout cas. cas, c'est mon sentiment. On ne peut pas partir à l'aventure en général, et l'aventure artistique et musicale en particulier, sans avoir conscience du danger et qui est au bout du chemin. Mais bon, la vie est faite quand même pour l'aventure, et voilà la raison pour laquelle je ne me suis pas privé de celle-ci. Alors donc, effectivement, on peut dire tout, et on a déjà dit...
Oui, beaucoup de choses, bien sûr.
Beaucoup de choses, et des bibliothèques entières ont été consacrées au sujet. Mais la relation qu'il y a entre, vous avez dit, le récit et la musique est une évidence. Elle a été d'emploi constant dans l'histoire de la musique. La musique religieuse ne s'en est pas privée, bien évidemment, ni d'ailleurs la musique profane, à commencer par la chanson, dont c'est le critère même. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous voulez que je vous dise sur ce sujet. On peut le développer ou on peut passer dessus, je ne sais pas. Quel est
Mais ça peut être... voilà, c'était une manière aussi de se dire qu'effectivement, et je retiendrai la matière du risque et du danger couru aussi en même temps. Et puis, peut-être... de se dire aussi que agir en musique, finalement, quelque part, vous permet-il aussi de persister à vibrer, finalement, ou à devenir. Et donc là, on retrouve un petit peu à cette mise en danger, finalement, et dans la recherche de cette qualité de mise en vibration.
Oui, d'ailleurs, on peut faire une métaphore à propos de la vie. C'est comme un instrument de musique. Si elle a des cordes et elles sont faites pour vibrer. Sinon, il n'y a pas de son, il n'y a pas d'instrument et donc il n'y a pas de musique. Bon. Alors, cela dit, il est évident que la relation qu'il y a entre les mots et la musique, cela a donné, par exemple, sur les temps les plus récents, le lied en Allemagne et la mélodie en France et ailleurs. Mais bien avant, il y avait la chanson qui était partout. Et bien avant la chanson encore, le cri, tout simplement, l'appel, l'instinctif moyen de se retrouver dans l'espace aux dimensions surhumaines. Bon, ainsi, le son, puis le mot, dans le long cheminement de son apprentissage, ont-ils été les... éléments d'un nouveau langage, le chant, devenu par le long exercice de l'intelligence et de la sensibilité, ce que nous savons. On peut s'interroger sur les raisons qui ont amené les temps modernes, c'est-à-dire les temps modernes dès le XVIIIe siècle déjà, à discuter sur la relation entre le langage parlé et le langage musical, pour en conclure que les mots n'ont nul besoin de musique, ce qui n'est qu'une claque dans l'eau, tellement les évidences sont là. Le terme de mélodie n'est-il pas en effet un terme de rhétorique ? Il constitue le chapitre le plus important des ouvrages consacrés à la figure de style. Cette mélodie, donc, détermine une rythmique. Et tout est dit. La musique, elle, vient modifier ces rapports, ces deux éléments fondamentaux, non dans leur principe, mais dans leur relation naturelle. Cette modification notoire, relevant de décalage dans le temps, vers un rapport plus élargi que contradictoire. En d'autres termes, quand vous chantez, vous prenez l'auditeur à l'auditeur plus de temps que lorsque vous lui parlez pour un même texte. Enfin, l'esthétique domine dans toutes ces questions, car c'est d'elle que nous vient la réalité des rapports de temps, d'inflexion, d'espace, pourrait-on dire. Le chant de Wozzeck, par exemple, d'Alban Berg, plein XXe siècle, n'a plus guère à voir avec celui qui a traversé les siècles précédents, ni même le chant de Mozart qui se démarque de celui de Bach, ou le chant de Wagner qui se démarque, lui, de celui de Beethoven, en particulier le Beethoven du second acte de Fidelio. Voilà, alors je crois que là, on a fait un petit tour d'horizon qui définit les choses, et quoi qu'il en soit, je ne vois personnellement pas, surtout dans un monde où la querelle domine, je ne vois pas qu'il y ait matière à chicane dans cette chose-là. La chanson elle-même a répondu à presque une exigence de l'humain à sortir de la voix parlée vers autre chose.
Vers autre chose. Et du coup, je reprends là finalement aussi des propos aussi de Régine Détambelle qui est écrivaine. Et justement sur cette importance des mots et de pouvoir de comment ils vont nourrir aussi finalement la créativité de chacun et la et habiter la singularité de chacun, où elle dit créer n'est pas produire, à tout âge créer c'est libérer des possibilités de vie susceptibles d'accroître à la fois la puissance de la sensibilité et la jouissance du fait de vivre. Puis elle poursuit ensuite, créer est ce commencement lui-même. Créer, donc, est le seul moyen de se tirer d'affaire.
C'est le mot, se tirer d'affaire.
Se tirer d'affaire.
Pourquoi pas. Et surtout, un espace de jungle qui est le nôtre. Bien, alors, oui, il est évident que la notion de plaisir qui est évoquée par cette écrivaine est dominante. De toute façon, la notion de plaisir, à mes yeux en tout cas, est quelque chose de dominant. Le plaisir, donc le jeu, si on peut dire. L'enfant commence par jouer et c'est peut-être sa période la plus fertile, hein, en fin de compte, malgré les apparences sociales. Donc il faut rendre hommage à ça. Et le fait de plonger dans la création, pour employer une grande expression un peu fumeuse. C'est ça. Il y a la peur, évidemment, la peur de celui qui part à l'aventure, parce qu'il y a toujours des risques. Et là, les risques, s'ils ne sont pas de vie et de mort, ce sont des risques de relation avec ceux auxquels on destine quand même ce que l'on va faire, parce que je ne connais quand même pas d'écrivains, de peintres, d'artistes, etc., qui font leur petite besogne, qui barbotent, si j'ose dire, dans une petite flaque pour eux-mêmes. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'exemple. Alors donc, c'est bien qu'on va vers les autres. On espère aller vers les autres, du moins. Je ne crois pas que ce soit une notion de fatuité, d'orgueil, de choses comme ça. Il faut laisser ça de côté, parce que sinon on ne s'en sort plus, on ne peut plus dire un mot. Mais là, je pense que c'est plus une notion une intention de partage, in fine, et d'amour. Il faut lâcher les choses comme elles sont, parce qu'en dehors de ce mot-là, il n'y a pas grand-chose de verré. Celui-ci, au moins, trône comme le soleil. Et donc, la création, c'est cela. Alors après, il y a la part de travail, il y a la part d'imagination, il y a la part de tout ce qu'on voudra. Ça, c'est le mystère des choses, et puis voilà.
Non, mais ça me semble aussi important. Et puis, tout à l'heure, quand vous évoquiez aussi, justement, avec la chanson « Il y a le cri », le cri, tout simplement, l'appel, l'instinctif, moyen de se retrouver dans l'espace aux dimensions surhumaines. Là aussi, on voit bien aussi, alors là, si je reviens dans votre parcours, comment justement le mot, le texte, la force de la parole, justement, tiennent une grande place dans vos œuvres. Et là, je dirais, le nombre important de vos compositions pour la voix, qu'elles soient de manière soliste, en petite formation, qu'elles soient aussi pour petit ensemble ou grand ensemble vocal, démontre largement. Et du coup, la matière mot, pour aller un petit peu plus maintenant en avant dans cette relation que vous avez avec le mot et la relation musique aussi, la sonorité du mot, des mots, sont-ils pour vous la source, je dirais même, de la mise en mouvement, finalement, de l'écriture musicale?
Ben oui, le mot « mise en mouvement » me convient très bien. Et le mot est un mouvement, donc la musique est également un mouvement. Le mouvement, c'est l'élément majeur, incontournable de la vie. Et on ne peut pas, enfin me semble-t-il, se priver des mots, même quand on est dans un art qui est apparemment, est étranger aux mots, je dis bien apparemment.
Apparemment, oui.
Alors, bon, la peinture, c'est vrai. On peut pas dire que les mots lui sont nécessaires. Hein. La peinture, c'est la peinture. La sculpture, c'est la sculpture. Tandis que la musique, qui est un art plus, j'allais dire vaporeux, pas vaporeux, mais moins tangible par sa nature
parce
même.
Parce qu'il est peut-être un peu plus immatériel.
Physique, donc... Le son, ça se touche pas.
Tout à fait. Il est éphémère dans le temps.
Une immatérialité. Donc, il y a toute la place pour les mots. Le cas échéant, bon, une grande partie de la musique se passe des mots. Elle est un langage elle-même. Donc, elle trouve que les sonorités, les harmonies sont un langage, donc des mots. par métaphore, mais la musique, le musicien d'instinct a recours aux mots parce que c'est le fondement même de la relation humaine, et que dans ces mots qui sont eux-mêmes déjà une musique, puisqu'on a parlé de la mélodie tout à l'heure comme figure de rhétorique,
oui.
Voilà, donc il serait quand même très dommageable de ne pas recourir à ces mots et qui peuvent apporter, et l'histoire de la musique l'a prouvé, hein, ça c'est pas, je découvre rien.
Bien sûr.
Bien sûr. Mais l'histoire de la musique a prouvé que cette relation, justement, entre les mots et la musique, c'est-à-dire le recours aux mots vers la musique.
Oui, tout à fait.
Est quand même un langage devenu absolument sacré dans ses plus belles réussites. Il n'y a pas de doute. Et je ne songe même pas à l'opéra.
Oui,
c'est un genre un peu particulier,
oui.
Où il y a une histoire qu'on raconte qui est évidemment proférée avec des mélodies, etc. Bien sûr, mais non, en dehors de l'opéra même.
Oui, c'est ça. En dehors de l'opéra, on sent ça. Et puis, justement, peut-être en contrepoint de ce qu'on vient de commencer à dire, j'emprunte là aussi volontiers les propos de Yves Bonnefoy, justement, et qui évoquait un petit peu ce que c'était pour lui que d'écrire les mots, de poser les mots sur la page. Et il dit, on n'écrit pas avec des mots sur une page, c'est-à-dire avec des signes graphiques sur une page, on écrit avec les mots sonores. Comme d'emblée, ils sont modulés par une voix qui ne peut être que la vôtre. Le lieu des mots, ce n'est pas la page blanche, c'est la voix, votre voix, celle que les cordes vocales produisent, mais c'est aussi toute votre histoire, tout votre sentiment. Fin de citation. Là aussi, on sent bien comment le mouvement interne, il va jusqu'aux cordes vocales. C'est-à-dire que on a le son, mais le fait d'aborder le mot de manière interne, voire même d'arriver à la voix haute finalement, mais que dans tout ça, il y a la mise en mouvement interne physique qui va être productrice aussi à un moment donné, peut-être de ce que sera ce son devenu musique, ce mot qui... Et on retrouve cette idée de mise en mouvement, effectivement.
Et d'ailleurs, c'est tout ce que dit toute parole d'Yves Bonnefoy se démarque très largement. C'est un personnage de très haute stature qui nous a quittés. Parce qu'il
oui, tout récemment d'ailleurs.
Il était très vieux.
Tout récemment.
Mais bon... On ne peut pas se consoler de la disparition d'un être comme ça qui surclassait, à mon avis, hein, l'ensemble. Et justement, là, c'est un des rares à parler de la musique.
De ce rapport.
Voilà,
oui.
Absolument. Et son œuvre en atteste, et en particulier sa poésie, qu'il ne faut pas oublier, parce qu'il a, dans sa jeunesse, écrit de la poésie un peu moins après, où il a écrit des choses, des textes de...
Critique oui,
sociale,
réflexion,
artistique, philosophique.
Esthétique.
C'est un écrivain difficile à lire.
Oui, c'est
difficile,
vrai. Il nous entraîne très profondément, très loin.
Il faut mériter ça. Oui. En tout cas, pour moi, c'est une de mes références clés. Monsieur
Bonnefoy.
Bonnefoy, oui.
Oui,
je vais vous faire une petite confidence.
Oui,
je verrai très bien un président de la République comme lui.
Tout un programme. Thank you. Résonance sur Radio B, invention à deux voix, avec Lucien Guérinel. Alors Lucien Guérinel, on vient d'entendre un extrait d'Archiloque, qui là, je trouve, vient aussi un petit peu tout à fait, pas illustré, parce que le terme serait pas, mais entrerait tout à fait en écho et en continuité par rapport à nos propos précédents. Donc Archiloque, le deuxième mouvement, des 7 fragments d'Archiloque pour 12 voix mixtes. C'est une œuvre que vous avez écrite en 1989. Et là, nous venons d'entendre l'ensemble Musica 13, placé sous la direction de Roland Arabedian, et un magnifique ensemble qu'on connaît le travail de fond depuis de nombreuses années, et cet ensemble professionnel de niveau qui porte aussi toute la création musicale et vocale contemporaine. Et signalons, ce sera une manière de s'associer finalement un petit peu à eux aujourd'hui. Il a fêté le 4 février dernier à Marseille son 30e anniversaire de sa création justement dans cette même ville. Anniversaire bien sûr auquel notre émission Résonance s'associe et nous leur souhaitons plein de bonnes choses très 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 chaleureusement pour cet anniversaire. Et puis parce que aussi il y a des liens, vous avez été aussi à un moment donné le président de cet ensemble, Lucien Guérinel. Et voilà, et peut-être on pourrait essayer d'en dire un petit peu plus sur ce quoi sont construits ces archiloques, et effectivement la source qui vous a conduit justement à vous pencher aussi sur l'écriture et sur ces textes, et d'aller vers cette musique que nous avons entendue il y a quelques instants.
Oui, ce sont des mots très vieux.
Très vieux, oui, tout à fait.
De 600 ans avant Jésus-Christ. Ouais. Et ce cher archiloque dont André Bonnard, pas le peintre, l'helléniste, un traducteur éminent, qui dans les années 60, oui, disait que Archiloque était en réalité le premier poète lyrique d'Europe. Alors moi, ça, c'est une formule que j'aime assez. Mmh. Et puis surtout, le contenu de ce lyrisme sur lequel je ne m'interroge pas.
Oui.
Et bon, il s'agit de fragments, donc de poésie mutilée.
Mutilée, oui.
Ouais, enfin, dont il reste parfois quelques éléments cohérents qui n'ont pas besoin d'autre chose. C'est le cas des quelques fragments que j'ai choisis, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont inutilisables pour mettre en musique. Mais ceux que j'ai choisis ont, si vous voulez, leur petite logique, leur petit début, leur petite fin, et ils se suffisent à eux-mêmes.
Ils en font presque
c'est
des
presque un miracle de voilà. Dire que le fragment vaut peut-être
c'est ça.
L'intégrité du poème. Enfin, là, je me risque à dire ça. Bon, là, en l'occurrence, par exemple, ce que nous venons d'entendre, oui, c'est le passage d'une femme, et dont il dit ceci. Elle se plaisait à tenir une branche de myrte ou la belle fleur du rosier, et sa chevelure abritait en ombrelle sa nuque et ses épaules. Alors moi là, j'ai pas pu ne pas voir en même temps,
oui,
la célèbre femme à l'ombrelle de Monet, mais elle, c'est sa chevelure qui fait ombrelle.
Tout à fait.
Les Grecs avaient toujours un temps d'avance. Mais cette image, bon, qui n'induit pas de grands commentaires.
Tout à fait.
J'ai essayé dans 3 minutes, au moins 3 minutes.
Oui, puisque là, on est à 2 minutes 10.
De la justifier, voilà. Ou 2 minutes, voilà. De la justifier par, finalement, presque une absence de mouvement,
c'est
sinon ces trois notes qui descendent.
Oui, cette immobilité qui se répartit justement avec les voix de femmes.
Et qui finissent par rester seules, vierges, dépourvues de tout feuillage inutile. Pardon.
Ouais.
Et voilà, c'est ça, là, pour moi, cette femme que Archiloque regardait sur les rochers de Paros bien avant que nous soyons là.
Et on voit, voilà, cette force justement du mot, cette force aussi de la poétique, puisque 600 ans avant notre ère, et tout ce qu'elle suggère, justement.
Oui, ça, les mots de Archiloque, traduits par Bonnard, ne posent pas de problème, ils sont des mots de tous les jours, dirait-on, des mots d'aujourd'hui.
C'est ça.
Alors, c'est le privilège des grands auteurs, des poètes, tout simplement.
Alors du coup, quand vous découvrez ces fragments, vous découvrez ces éléments, tout de suite, ça fait tilt. C'est quelque chose qui, quand vous les avez croisés, vous vous êtes dit, ah, là, il y a quelque chose qui... qui vous a touché profondément pour dire ça peut me mettre en mouvement pour écrire.
Oui, il y a un peu de ça, parce que quand, donc dans les années 60, j'avais trouvé ce livre très, très vite après qu'il ait été publié, aux Belles Lettres, l'édition des Belles Lettres qui me sont très chères. Il est évident que quand j'ai lu ces fragments d'Archiloque, je ne les ai pas lus, comment dirais-je, indifféremment, sans neutralité. Hein, j'ai tout de suite.
Était frappé, peut-être.
J'ai dit, là, pour moi, je vais pouvoir. Je ne suis pas le seul, d'ailleurs, à avoir utilisé les poèmes d'Archiloque. Hein. Il y a un compositeur dont le nom, dans l'immédiat, m'échappe, mais qui vit en Amérique, auquel j'avais d'ailleurs écrit.
Ah oui, en lui indiquant que vous étiez vous aussi.
Ma connaissance, il n'y avait que lui qui avait utilisé le fond d'Archiloque.
Ouais.
Mais il n'a pas condescendu à me répondre. Alors, nous restons dans le silence et chacun son Archiloque. Voilà. Mais donc, en lisant ces fragments d'Archiloque, j'ai été, comme je suis d'ailleurs, un enthousiaste. Voilà, j'étais pris
tout
par
de suite.
Le feu.
Ouais,
voilà. Immédiatement, j'ai projeté. J'ai fait mes choix de ces 7 fragments pour faire cette œuvre-là.
Ça veut dire aussi que quand une œuvre comme ça, là on parle de l'élément déclencheur, de la mise en mouvement, quelle que soit l'œuvre, il y a l'idée qu'on se projette, c'est-à-dire que du coup, elle ne peut pas faire œuvre si elle n'est pas projetée, si on n'a pas élaboré, je dirais, ou ce que pourra être cette projection au préalable.
Oui, bon, la projection, c'est le mot, c'est une mise à feu immédiate, bon, dans l'esprit. Bon, l'esprit ne fait pas tout de suite de la musique, en tout cas, peut-être chez certains, elle jaillit comme une
immédiatement.
Source, pas chez moi. Mais en tout cas, voilà, on projette ça, on projette. Et après, bon, on se met au boulot, si vous me permettez ce mot-là. Et le boulot, ben là, c'est la musique, c'est un travail. Hein. Il faut essayer de trouver quelque chose, évidemment, surtout avec les mots. On est privé quand même d'une part de liberté. Les mots commandent. Là, une femme avec son ombrelle, ça peut pas être, je sais pas, un combattant qui fait
c'est
la guerre. Hein,
oui,
voilà.
Oui.
Alors donc, il faut imaginer ce que la musique est capable de faire,
de
bien
faire,
entendu.
Bien sûr.
Elle nous l'a prouvé
depuis
l'origine. Et bon, après, on fait son choix personnel selon sa sensibilité. Après, pour le reste, c'est pas au compositeur à en parler, c'est à celui qui l'écoute.
Et est-ce que, du coup, ça veut dire que, rencontrant voilà, ces textes d'Archiloque, concevant l'architecture, les modalités aussi de teint, puisque là, on entend bien, justement, les couleurs de voix de femme, même la fragilité, c'est-à-dire
tout
cette femme qui passe, on entendait
tout à fait
la fragilité des voix. Et le choix, donc, de comment vous allez retraduire vos sensations et l'émotion que ces fragments posent et que cette poétique dégage également. Et est-ce qu'on peut dire, au bout de l'écriture, que vous avez le sentiment que l'œuvre est achevée? C'est-à-dire que vous êtes arrivé au bout de ce que vous avez peut-être imaginé au préalable, ou ça reste quelque chose qui, à votre sens, est peut-être pas complètement inachevé?
Bon, je vais être très simple. Je pense que j'ai atteint le but qui est le
qui
mien.
Qui était recherché.
Je ne dis pas autre chose. Hein, voilà. Je ne dis pas autre chose. Personnellement, je pense que de mon enthousiasme initial après la lecture et le choix que j'ai fait et la mise en ordre.
La mise en ordre aussi.
Il fallait que musicalement également ils aient un certain ordre. Hein. On ne peut pas les mettre selon l'ordre.
Oui, voilà, c'est pas un ordre.
Le livre, non.
C'est ça.
Moi,
vous avez construit, imaginé le déroulé.
Mise en scène, si vous voulez, parce que des poèmes parlent de guerre, des poèmes parlent de la mort, d'autres poèmes parlent de l'amour, d'ailleurs d'une façon extrêmement vive, extrêmement réaliste. Archiloque était vraiment très en avance sur son temps. Il a fallu attendre des siècles pour qu'on reprenne de façon très brûlante cette question de l'amour. Hein. Donc il était très en avance, ce qui fait d'ailleurs sa valeur.
Sa force. Ouais.
Et donc oui, en tout cas je ne me viens pas à l'idée d'aller les toucher ou les retoucher. Et pourtant, beaucoup de mes musiques, je les retouche. Hein.
Oui.
Par insatisfaction.
Et on sait que certains compositeurs revisitent
mais bien sûr. Pourquoi pas, hein. On peut avoir le sentiment qu'il y a des ratés, ou peut-être tout est raté. Et j'ai même jeté des œuvres que je n'ai pas conservées. Bon, ça, tout le monde fait ça. Hein. Il y a en poésie, en peinture, il y a des moments où bon, on se force un peu, donc c'est pas bien. Bon, là, je pense quand même, oui. En tout cas, pour moi, c'est un certain bonheur. Un bonheur certain. Voilà, je fais cet aveu.
Je prends un petit peu justement en écho à ce que vous venez de dire, un autre compositeur, Igor Stravinsky.
Oui.
Et puis aussi ses différents propos qu'il a développés justement autour lui aussi de son vécu de la composition musicale, et notamment à travers la troisième leçon de poétique musicale. Et il nous dit ceci dans cette troisième leçon, « Cet appétit qui s'éveille en moi à la seule idée de mettre en ordre des éléments notés n'est pas du tout chose fortuite comme l'inspiration, mais habituelle et périodique, sinon constante, comme un besoin de nature. Ce pressentiment d'une obligation, cet avant-goût d'un plaisir, ce réflexe conditionnel, comme dirait un physiologiste moderne, montre clairement que c'est l'idée de la découverte et du labeur qui m'attire. Le fait même d'écrire mon œuvre, de mettre, comme on dit, la main à la pâte, est inséparable pour moi du plaisir de la création. En ce qui me concerne, je ne puis séparer l'effort spirituel de l'effort psychologique, de l'effort physique. Ils se présentent à moi sur le même plan et ne connaissent pas la hiérarchie. » Fin de citation.
Point final, et il n'y a plus rien à dire. Parce que là, il a tout dit.
Je trouve que c'est intéressant aussi.
Le physique
aussi,
et l'intellectuel, ça, voilà. C'est encore une querelle. Le physique, c'est l'intellectuel. L'intellectuel, c'est le physique.
Voilà. C'est ça, cette double relation et cette ce lien intrinsèque, oui, effectivement.
Il n'y a pas de chicane à engager sur ce terrain-là.
Alors, est-ce qu'on pourrait dire, justement, il dit à un moment donné, on pourrait voir d'ailleurs le boulanger, je mets le main à la pâte, je pourrais voir l'artisan, je pourrais voir, pourrait démultiplier, bien évidemment. Oui. Est-ce que le compositeur, pourrait-on dire que le compositeur met la main à la pâte comme le peintre ou comme le sculpteur?
Tout à fait. Bon, il y a même une expression encore un peu plus triviale, c'est mettre les mains dans le cambouis.
C'est vrai aussi.
N'est-ce pas?
Tout à fait.
Pourquoi pas?
Pourquoi pas, effectivement.
Mais pourquoi pas ? La maman fait bien d'autres choses avec ses enfants, d'accord ?
Donc du coup, s'aventurer aussi un peu comme ça dans... La musique va s'aventurer, effectivement, dans cette notion d'abstraction qu'elles sont. Hein, si on revient à comment le mot va mettre en mouvement et par rapport à ce que dit Stravinsky, le brassage... avec ses mains, à partir de l'idée, donc, et ce chemin vers l'abstraction, et parce que je manie le son, parce que le compositeur petit à petit n'a pas beaucoup de repères, mais que du coup tout ce travail petit à petit fait qu'on s'amène dans une suprême aventure, hein, en raison de cette absence de balises, de matière, et la musique donc comme la peinture va aussi s'employer quelque part et vous l'évoquiez tout à l'heure déjà un petit peu, à créer des images qu'on ne peut pas retrancher du concept humain, de l'intelligence humaine.
Oui, oui, bien sûr. Là aussi, la part classique entre le sensible et l'intellect et l'intellectuel, elle existe, bien sûr. Mmh. Hein, d'accord, mais enfin, elle ne subsiste qu'à travers des différences de manifestation, une épiphanie si vous voulez, hein. Mais dans le fond encore là je ne connais pas d'événements humains qui puissent se départager comme ça, avec des ingrédients différents qui finissent par faire une sauce. Alors on peut imaginer que c'est ça l'humain, bien sûr, mais on peut s'en passer aussi, hein. Voilà. Parce qu'il y a quand même une part de sacré dans, justement, la parole que nous sommes les seuls à avoir.
Tout à fait. Donc, du coup, on voit bien que certaines œuvres ont une assise littéraire, justement. On vient de dire de l'être humain qui a besoin de dire. Il va dire aussi ses émotions, ses envies, ses perspectives, ses rêves, dans des contes, dans des mythes aussi, que là aussi, les compositeurs transfigurent, finalement.
Oui.
Et que du coup, la musique, elle devient aussi, alors on pourra voir aussi, on va l'approcher dans quelques instants aussi comme le domaine pictural, est un révélateur aussi finalement de ses contes, de ses dires, comme elle devient aussi elle peut être un révélateur aussi de l'œuvre picturale en elle-même.
Oui, oui. Je crois que tout... Une fois de plus, on peut pas faire de dichotomie dans cette affaire-là. La poésie, par exemple, si on prend la poésie, est-ce que cette poésie est différente du langage ordinaire ? Apparemment, oui. Mais en fait, moi, personnellement, je pense que c'est le langage initial. Hein ? Contrairement aux apparences, puisque la poésie est quand même laissée pour compte. elle fait l'objet de retraits permanents dans notre société. Les librairies en attestent, mais elle existe toujours. Mais on en a fait par l'impact qu'elle a eu sur les lecteurs du monde, on en a fait encore une fois un langage de l'élite, ce qui est un mot abominable qui ne devrait jamais être jeté dans cette bataille, puisqu'il s'agit de ça en fait. Hein. Et c'est extrêmement regrettable. La poésie n'est pas un langage de l'élite, c'est le langage premier. J'irais jusqu'à dire que c'est le langage de l'enfant. Quand on le laisse un peu parler avant qu'on lui apprenne quelque chose, c'est quand même une affaire terrifiante. Hein, bon, et voilà. Alors donc, j'inverserai volontiers les choses. Et la poésie a eu ça pour elle. Je ne sais pas si, par exemple, prenons le cas d'Archiloque, puisqu'on vient d'en parler, il n'allait pas à l'université, Monsieur Archiloque. C'était presque un voyou dans la nature. Mais bon,
il avait ça.
Donc son langage, il est venu de lui-même. Et il a trouvé un langage qu'on a qualifié, justement, de poésie.
De poésie.
De poésie. Parce que ce n'était pas le langage tout venant. Mais cette façon de mettre en musique les mots, ce qui donne la poésie, était justement à l'origine de ce mouvement, ce brassage intérieur qui échappe à toutes les notions de séparation, de mise en hiérarchie, etc., etc. Pour une fois, il y a une possibilité dans l'humain d'égalité.
Des passerelles de silence glissent entre les étangs jaunes. Une mèche au ciel divise le feu du soir des songes aux portes closes.
Résonance sur Radio B, invention à deux voix avec le compositeur Lucien Guérinel. Alors là, Lucien Guérinel, on vient d'entendre un extrait d'un cycle qui lui prend appui. On vient de beaucoup de parler du mot, mais il y est encore présent puisqu'on vient d'entendre la voix et qu'on vient d'entendre aussi les mots. Mais où là, cette fois-ci, la part suggestive de mise en mouvement, le projet d'élaboration part. On évoquait à l'instant juste cet extrait, le pictural, encore le signe, le mouvement, la trace. Et là, notamment, l'œuvre, les aquarelles, justement, d'un, d'un peintre qu'on connaît sous le nom de Nold. Et donc, c'est une œuvre que vous avez intitulée 24 préludes pour Nold. Là, nous avons entendu Paysage marécageux, interprété par Elisabeth Grard, soprano, Bénédicte de Billy, récitante, Nathalie Negro au piano. Et on entend aussi derrière qu'il y a tout un travail électroacoustique, électronique, dont nous allons revenir dans quelques instants. Et il est tenu par Jérôme Deck, qui est au pupitre de diffusion. Juste un peu pour le situer, c'est cette œuvre que vous avez imaginée à partir des 24 préludes pour Nold. C'est un travail que vous avez entrepris à partir de 1992. Et c'est des dessins, des aquarelles, des mille Nold. Alors pour le situer pour nos auditeurs, il est né en 1867 et il disparaît en 1956. Hein. Et là, vous imaginez tout ce cycle et que finalement, il est important de signaler aussi que, à partir de ces aquarelles, vous avez écrit aussi des textes. Ça a été peut-être, est-ce que ça a été le, je dirais, le premier mouvement, la première mise en mouvement, c'était de se dire, avant que la musique n'apparaisse, finalement, c'est les mots qui sont venus en première expression de votre émotion, de votre regard de ces aquarelles et de ces dessins.
Je vous répondrai d'autant plus par l'affirmative que, effectivement, quand j'ai découvert ces aquarelles de Nold par un livre, hein, bien sûr. J'ai été ébloui, véritablement. Ça a été, comment on dit aujourd'hui,
un choc.
Un coup de cœur, un choc, voilà. Et à cette époque-là, je ne regardais même pas la télévision. Et le soir, après le repas, j'allais dans mon bureau, dans mon appartement, je vivais à Marseille, et j'écrivais des poèmes le soir, comme ça.
Hein, voilà. C'était votre moment d'écriture
poétique. Dans un appartement, on ne peut plus utiliser le piano, ça fait du bruit, etc. Donc, bon, la poésie est silencieuse, au moins cet avantage-là. Donc, j'écrivais des poèmes, et dès que j'ai eu ces aquarelles, après les avoir regardées 100 fois, j'ai eu l'intention.
L'intention est venue.
L'intention est venue d'écrire. Alors, j'écrivais des poèmes comme ça, bon, j'ai écrit, je mettais de côté, comme je fais toujours, parce que moi, je n'ai pas d'éditeurs qui m'attendent. Hein. Bon, et j'ai mis de côté. Et un peu plus tard, peut-être un an ou deux ans, je ne me rappelle plus tout à fait, le groupe de musique expérimentale de Marseille m'invite très gentiment à venir chez eux, c'est-à-dire les électros, etc.
Informatique musicale.
Ma formation, je n'ai aucune compétence en la matière, donc ils m'invitent, ils me font confiance, ils m'invitent. Et là, quand ils m'ont demandé quel est votre projet, je leur ai dit, voilà, j'ai écrit. 24, parce que j'avais écrit 24, c'est non prémédité.
Non prémédité, en
24, parce que bon, les préludes, ça va 12, 12, 12. Bon, en musique, c'est toujours par 12.
C'est vrai.
24 préludes sur des aquarelles de Nold. Et là, moi, je vois très bien un piano de base. L'ensemble, évidemment, électroacoustique, puisque c'est l'objet de votre invitation. Et il me faudra une chanteuse, une soprano et une récitante. Je verrai bien les deux.
Tout à fait. Voilà. Et le rapport des deux est judicieux.
C'est la genèse de cette œuvre qui m'a évidemment passionné. D'ailleurs, tout me passionne. Hein. Pas que ça, bien sûr.
On l'entend tout à fait.
Mais enfin, là, celle-ci est vraiment chère à mon cœur pour différentes raisons que je ne peux pas développer ici. Mais bon, le destin d'un homme comme Nold, dans la période où il a vécu, tout ce qui a pu être dit à ce sujet-là, me bouleverse quand même beaucoup, parce que je trouve qu'on perd un petit peu le fil des choses réelles à travers des événements historiques qui engorgent un peu l'esprit.
Hein. Alors on peut rappeler justement, j'évoquais qu'il était né en 1867, mais il s'appelait Emil Hansen. Et c'était important de le préciser.
Et danoise.
Voilà, c'est ça. Hein. Et que du coup, il prend le nom en réalité de Hansen. Il prend le nom de son village natal. Peut-être qu'aussi c'était une manière aussi régulière et courante pour un individu de s'affirmer. Je suis d'ici et lui, je suis d'ici. Et son je suis d'ici, c'était Nold.
Ce sera mon nom.
Ça sera mon nom. Et mon village natal deviendra mon nom. Donc très attaché effectivement à sa terre natale nord-allemande, à la frontière danoise, il y achète en 1913 au sommet de son art une ferme atelier. Près de Sibul, et il y reviendra toute sa vie. Il abrite aujourd'hui la fondation Ada et Emil Nold, qui a prêté la plus grande partie des œuvres d'une exposition, et sa dernière compagne y réside aussi depuis sa mort en 1956. Et il disait ceci, justement, par rapport à ces endroits, c'était sur l'île d'Alsen, au cœur de l'été, J'ai été irrésistiblement attiré par les couleurs des fleurs et je me suis presque immédiatement mis à peindre. Ainsi sont apparus mes premiers petits bateaux. Vous voyez le lapsus, mes petits tableaux de jardin. Les florissantes couleurs des fleurs, la pureté de ces couleurs, je les aimais. C'est ce qu'écrivait Nold dans ses souvenirs autobiographiques. Et plus loin, il disait la chose suivante. Le peintre n'a pas besoin de savoir grand-chose. On parlait d'archiloque tout à l'heure. C'est beau s'il peut peindre en se laissant guider par son instinct aussi sûrement que quand il respire ou qu'il marche. Les rêves, poursuit-il, ne sont-ils pas comme des sons, et les sons comme des couleurs, et les couleurs comme de la musique ? Les couleurs sont mes notes, avec lesquelles je forme des accords et des sons en harmonie ou en contraste.
Oui, il est d'ailleurs, peut-être, je ne peux pas tout avancer parce que je n'ai pas tout lu, il est peut-être le seul à avoir, à partir de la peinture, pas dans le sens inverse, mais à partir, lui, le peintre, parler de son, donc de musique.
C'est ça.
C'est un des rares. Donc il a manifestement senti, d'ailleurs la citation en atteste,
tout à fait, complètement,
que effectivement la peinture était tout à fait capable de suggérer des sons. Voilà. Et ça ne m'a pas échappé, bien sûr.
J'imagine.
Mais ça, je l'ai lu beaucoup plus tard. Hein. Comme vous, sans doute. Hein.
Bien sûr, beaucoup plus tard. Bien sûr.
Voilà, en tout cas,
c'est en préparant cette émission.
Parce qu'il faut dire qu'il n'y avait rien d'écrit. Et vous m'avez vous-même offert un jour un livre en français de Nold, qui était le premier ouvrage publié en français en Nold, il y a moins de 10 ans de ça.
C'est vrai.
Dire si on fait des apartheid en France. Hein,
complètement.
Bon, et façon. Et alors, donc, voilà, cette, une fois de plus... Après Baudelaire, d'ailleurs.
Aussi.
Bon, les correspondances, c'est quand même pas une nouveauté. Mais il est bon de les rappeler et d'entrer un petit peu dans le sujet pour dire qu'après tout, les différences, même si elles existent, comme elles existent entre un homme et une femme, que je sache, hein, mais enfin, c'est quand même des êtres humains et on ne les distingue pas plus que cela.
Alors peut-être, je rebondis aussi également toujours à partir de Nold, à partir d'une autre aquarelle que vous avez intégrée dans le cycle de ces 24 préludes, il y a aussi Mer en automne. Alors je voudrais revenir sur Mer en automne parce que c'est un des endroits où on a entendu qu'il y avait le piano, on a entendu qu'il y avait la chanteuse, et puis on a entendu que vous aviez cette collaboration avec le CNEM de Marseille. Et c'est peut-être l'endroit où vous vous êtes aventuré.
Oui.
Si je peux employer ce terme.
Oui, tout à fait.
Hein, dans le champ de l'électroacoustique, dans le champ de l'électronique, au travers, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, tiens, Mer en automne, c'est plus susceptible d'aller dans ce registre-là, pour vous, dans l'émotion que vous en ressentiez?
Peut-être déjà à cause du tableau. Et évidemment, il nous manque l'image.
Il nous manque l'image, enfin, c'est vrai.
Cette Mer en automne, c'est un véritable combat entre mer et ciel, il n'y a pas d'autre chose. Mer et ciel. Et la mêlée, je ne dis pas le mélange, mais la mêlée des couleurs est presque comme un combat de dragons, un combat à mort, bien entendu. Et on peut le regarder également comme un feu d'artifice absolument hors norme. Et cette brassée violente, les mers de Nold sont toujours fortes, violentes. Il a même minéralisé à la fois les vagues et les nuages. Il y a quelques tableaux absolument splendides, enfin à mon goût, à ma sensibilité, où il y a une véritable minéralisation. Donc il a fait comme une sorte de fusion des éléments de la Terre. Et c'est une vision, ça. Ça n'a pas empêché, comme vous avez vu tout à l'heure, de faire tout un cahier de fleurs.
Tout à fait.
Voilà, qui sont
magnifiques aussi.
Une expression de vive tendresse. Etc. Les hommes ne sont pas univoques. Et voilà. Alors donc, l'aquarelle de Nold, la peinture en général, mais l'aquarelle de Nold m'a littéralement fasciné. C'est le mot exact, comme les animaux qui sont fascinés par l'approche du serpent qui va les dévorer, en quelque sorte. Hein, voilà. Et c'est, voilà. Pour moi, ça a été un grand moment de ma vie, ça.
Alors je vous propose, cher auditeur, de découvrir...
Et j'ai pas, pardonnez-moi, j'ai pas quand même répondu tout à fait à votre question. Je me suis laissé emporter toujours par mes enthousiasmes, pardonnez-moi.
Mais c'est ce qui est le propos aussi d'une invention à deux voix.
Pourquoi je n'ai pas utilisé là ni le piano, ni la voix chantée? Mais justement, parce que cette absence de distinction entre mer et ciel m'a engagé, avec un petit poil d'orgueil quand même, en disant je vais faire un peu d'électronique moi aussi, mais pas de piano, pas de chant.
C'est ça.
Il va être tout seul. Donc je me suis fait mon petit orchestre, si vous voulez, là, et... mais j'ai laissé quand même la récitante,
tout
sinon mon poème Brémip aurait coulé dans cette tempête.
Alors nous prenons la mer en écoutant Mer en automne, Lucien Guérinel, 24 préludes pour Nold, interprète récitante Bénédicte Debilly et Jérôme Deck au pupitre de diffusion électroacoustique.
Feuillage de mer. Brûlants archipels. Éclairant des fêtes. Disloqués dans l'ombre des nuits bleues du large.
Résonance sur Radio B, invention à deux voix avec le compositeur Lucien Guérinel. Donc Nold, on le voit, vous a embarqué, si je peux dire, à travers sa peinture, mais d'autres aussi, d'autres peintres vous ont aussi embarqué dans d'autres aventures, dans d'autres explorations. Je cite très rapidement, par exemple, Déjeuner de soleil de Léonore Fini, hein, née à Buenos Aires, en Argentine, en 1908, et morte à Paris, en janvier 96. Et donc, une artiste peintre surréaliste, décoratrice aussi de théâtre, écrivaine d'origine italienne. Et elle a, conçu le Déjeuner de soleil. Et vous avez aussi travaillé, comme on vient un peu de le dire à partir de l'œuvre de Nold, vous avez imaginé une musique, une œuvre pour violon solo, Célesta, quatre percussionnistes, d'après le tableau éponyme. Et puis, j'évoquerai, encore un travail un petit peu plus proche aussi de nous, une autre culture. J'en viendrai à Shitao, le XVIIe siècle, la Chine. Shitao, un des grands personnages, né en 1641 du XVIIe en Chine, où celui-ci est à la fois l'auteur de création des poèmes, et il a éprouvé le besoin d'exprimer dans deux domaines étrangers, l'un à l'autre, la poésie et la peinture. Il avait le besoin que les mots trouvent un prolongement également aussi à travers la peinture. Et ça, c'est une chose qui vous a séduit.
Oui, instantanément, et c'est grâce, je dois le dire, à la monographie de... je vais encore caler sur le nom, François Cheng,
oui,
qui est devenu célèbre.
Académicien, depuis, et voilà.
Et un magnifique livre qu'il a consacré à la peinture et à la poésie de Shitao. Et je dois dire que c'est monsieur François Cheng qui m'a réellement, sur le tard, donc, le regrette beaucoup, mais je le confesse, qui m'a ouvert véritablement à l'art chinois, à l'art extrême oriental que je ne connaissais que de loin en loin. C'est-à-dire que je ne le connaissais pas. Mais grâce à ce livre, qui est assez conséquent, où apparaissent par conséquent des reproductions des œuvres de Shitao, mais qui était également poète, donc ses poèmes sont en regard de ses tableaux, je trouvais que c'était une occasion en or pour que le musicien que je suis, modestement, mais quand même, mon cœur bat. Et il continue de battre. Ah ben, j'ai voulu me donner, si vous voulez, un peu de cœur à l'ouvrage pour aborder cet univers qui m'était si lointain, non pas géographiquement, mais dans la connaissance, dans la sensibilité. Et là, j'ai compris ce que je n'avais peut-être jamais encore compris sur ça. Et puis la beauté à la fois du verbe et du pinceau de Shitao m'ont convaincu à ce moment-là d'écrire aussi des poèmes sur lui.
Résonance sur Radio B, Invention à deux voix, avec le compositeur Lucien Guérinel. Et là, nous avons entendu une des parties, la dernière, hein, Conversation au bord du vide et l'homme seul, interprétée par Marie-Paul Milone, mezzo-soprano, l'Orchestre National de France, le tout placé sous la direction de Fabien Gabel. Et magnifique aussi ce que vous avez pu tirer de ces propos et de ces poèmes de Chitao. Chitao qui veut dire vague de pierre aussi. Hein. On va rappeler que c'est un peintre de la dynastie Qing. Et il fut aussi calligraphe, poète, architecte, jardinier. On retrouve des ponts avec Nold, les fleurs, tout en ayant endossé l'habit de moine dans sa jeunesse. Et son œuvre, composée notamment de paysages et de motifs végétaux, exprime avec sensibilité des thèmes complexes comme l'immensité du monde ou la beauté de la vie. Son nom de naissance était Tsu Ryurchi et son nom de moine Daoji. Parfois boudé dans les milieux lettrés en Chine, Chitao est célèbre en Occident par son traité Les propos sur la peinture du moine Citrouille amère. Voilà, et ça c'est un ouvrage aujourd'hui qui l'a rendu très célèbre ici en France et qui a fait qu'un jour vous avez aussi rencontré cette poétique.
C'est la poésie mère, si je puis dire, parce qu'elle reste extrêmement simple. La péroraison, devant la fenêtre, un homme peine à vieillir, plus rien à demander. Il renonce à franchir sa porte. Voilà, avec les mots les plus simples, une poésie qui est vaste comme le ciel. Mmh. Hein, le face-à-face avec la mort, ici, est exprimé. Alors, vive la Chine d'avoir eu des enfants pareils.
Absolument. Merci en tout cas à Lucien Guérinel pour nous avoir accompagnés tout au long de ce deuxième entretien d'Invention à deux voix. Merci pour ces instants privilégiés justement. Cette émission a été réalisée avec la complicité de Simon Deborne à la réalisation et à la mise en onde. Cette émission de Résonance sera rediffusée vendredi prochain de 14h à 15h, puis mardi de 13h à 14h. Vous pouvez bien sûr réécouter quand vous voulez et où vous voulez, aussi longtemps que vous le souhaitez, la présente émission en la podcastant sur le site de Radio B, bien évidemment, notre radio préférée, www.radio-b.fr, ou sur le site de Résonance Contemporaine, www.résonancecontemporaine.org. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Très belle journée sur Radio B.